Je vais vous présenter les 12 intervenants que vous connaissez très bien, mais quand même, il y a d'abord Marc Estros qui va parler sur un texte qu'il a intitulé « Écrit sur un mur d'incompréhension ». Et, bon, que vous connaissez bien, qui est psychanalyste à Paris, et ensuite Armando Côté qui va nous parler sur la pudeur de l'histoire. Voilà, donc j'ai donc tout de suite la parole à Marc, et ensuite on verra pour Armando.
Je vous donne le micro aussi. Tiens, garde ça. Bon, bonsoir. Vous me dites si vous entendez mal. Là, ça va jusqu'à présent ? Parfait. Donc, le thème de notre année, c'est historiser, raconter, écrire l'histoire. De quelle histoire s'agit-il dans ce très beau et très borroméen titre de l'année ? Ce n'est pas l'histoire que les historiens prennent pour objet, puisque, comme je le rappelle dans mon argument, d'après Lacan, il ne s'y passe rien. Alors, qu'est-ce qui fait événement dans la psychanalyse et pour la psychanalyse ? Lacan répond à cette question dans Les non-dupes, la leçon 6 du 15 janvier 1974. Il définit d'abord l'événement. Je le cite, « L'événement ne se produit que dans l'ordre du symbolique. Il n'y a d'événement que de dire, vous le savez tous. » Puis, il oppose cet événement du dire à ce qu'il appelle la pluie d'informations dont nous sommes abreuvés. C'était en 1974, bien avant les chaînes d'information en continu. Il questionne ses éditeurs, il les interpelle. « On peut s'étonner que vous subsistiez encore, que vous gardiez votre jugeote, à savoir que vous ne vous en fassiez finalement pas trop. » De ce que le journal vous annonce tous les matins. Dieu merci, ça vous passe, comme on dit, comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Il poursuit un peu plus loin. Ce à quoi nous avons affaire dans le politique, c'est-à-dire dans ce phénomène de masse d'information, ce à quoi nous avons affaire dans le politique, c'est à un type d'information dont le sens n'a d'autre portée que l'impératif, à savoir le signifiant « un ». Et il conclut ce passage, « C'est pour nous commander. Autrement dit, pour que le bout du nez suive, que toute information à notre époque est déversée comme telle. » Formidable thèse quand même sur l'information continue contemporaine. Donc, l'information, je commente, l'information qui nous est déversée ne sert qu'à véhiculer un message caché, mais destiné à nous désarmer. Il ne nous reste qu'à nous soumettre nous-mêmes à l'impératif unique du politique, obéissez. Le message caché est bien simple. À ce qui se passe, à tout ce qui se passe, vous ne pouvez rien. Constatez donc votre impuissance et soumettez-vous. L'histoire qui, d'après Lacan, est à faire, celle des événements du dire et de leurs conséquences, est donc une histoire de la servitude, une histoire de la façon dont les places de commandement ont été dans l'histoire occupées. Ainsi, il s'agit de substituer à l'histoire des historiens, qui ne sert finalement qu'à justifier des finalités prédéterminées, substituer à cette histoire des historiens l'histoire des discours et de leurs configurations diverses. Lacan l'a faite, cette histoire des discours. Et avec lui, nous pouvons en effet l'articuler jusqu'à l'apparition récente du discours de l'analyste. Alors les trois, que vous me permettrez d'appeler traditionnels, qui précèdent le discours du psychanalyste, partagent donc ce même dire, ce même impératif d'obéissance. Ils fondent, nous précise Lacan, l'obéissance au nom de l'un. qu'à d'autres porter que l'impératif, à savoir le signifiant « un », c'était la citation. Il fonde l'obéissance au nom de l'un que chacun constitue, un « un » qui n'est évidemment pas le même selon le discours, mais qui, encore une fois, dans chacun, répond de la même méconnaissance, celle de la structure qui est en fait quadripartite de l'un, la seule à en rendre compte logiquement. Mais l'obéissance, question, l'obéissance n'est-elle pas aussi en fonction comme un impératif dans le discours de l'analyste ? Réponse, oui. Ce qui s'en produit dans ce discours est aussi rigoureusement déterminé que ce qui se produit dans les autres discours. À quel ordre, alors, y fait-on obéissance ? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut préciser que ce qui distingue la place de l'ordre dans le discours analytique, donc la place maîtresse, dans le discours analytique par rapport aux autres discours, c'est que cette place ne peut être tenue par personne d'autre que par le sujet lui-même. Le maître et l'esclave, le maître et l'hystérique, le maître et l'élève, autant de couples socialement représentés par un couple de corps, par deux corps. En revanche, l'ordre de l'inconscient, petit a, c'est une part constituante du par-l'être, au même titre que le sujet. On peut dire, de façon très approximative, la division est interne. Donc, l'ordre de l'inconscient est une part constituante, ça j'ai déjà dit, ce que ce A commande au dire, un dire donc qui est produit par le discours analytique, c'est ce A qui commande au dire, produit par le discours analytique, et un dire qui représente la réalité dernière du sujet, la réalité des contingences qui ont marqué de façon indélébile son histoire, produit S1 dans le discours. Dans les autres discours, le dire se produit aussi bien, mais il se voile d'un mensonge. Le mensonge de la vérité qui se prétend une, c'est-à-dire toute, dans les autres discours. Alors, faute de promettre cette vérité toute, le discours analytique se paye quand même, se paye d'un prix qui est celui de n'être pas recyclable dans le collectif. Du coup, aucun psychanalyste ne peut se faire passer pour un maître du dire analytique. Impossible, logiquement. Cela dit, les psychanalystes ne prônent pas la désobéissance sociale. Il leur suffit de prendre acte de l'impuissance des autres discours. Obéissez tant que vous voulez à votre maître de fiction, l'inconscient qui vous habite et qui vous anime, vous dirige à votre insu, et c'est une trace fixée qui n'obéit à rien d'autre qu'à elle-même. Cette trace, c'est une écriture lisible. Elle est la trace d'un un de jouissance qui s'est fait l'être et qui a valeur de réel pour le sujet. Notre expérience nous montre que ce réel ne flotte pas n'importe où et n'importe comment pour chacun. Je dirais que l'inconscient, c'est une suite ouverte d'emblèmes distincts qui portent chacun une représentation fixée de l'un, une représentation de ce qui a fait, pour le sujet, rencontre avec l'événement du un-dire. Donc cet emblème est la trace de cette rencontre, trace inscrite dans la chair du parlant, qui est le lieu de ce dire. Contre cette trace, le sujet édifie le roman du tout phallique, et il ne peut du coup que cette trace que la rejeter comme faute originaire, l'oublier pour que le tout fonctionne. C'est pourtant aussi contre elle, contre cette trace, que le sujet trouve à se supporter quand il est perdu dans ses représentations. Le sens même et surtout phallique n'est en effet qu'une des faces du signifiant. Une des faces dont la prise sur le signifiant, dont la prise sur le par-lettre, constitue le paradoxe de l'un. Un signifiant, en effet, c'est ce qui, à la fois, a une valeur identique à tous les autres, et à la fois, il est complètement différent. Cette différence étant sa seule raison d'exister dans la langue. Ce paradoxe du signifiant répond au réel de sa structure. Et son impasse logique se résout avec Lacan si l'on part du fait que l'un ne procède pas du deux de l'amour. Ce ne sont pas deux qui font un, mais l'un procède du trois. Le trois qui fait sa place au réel de la coupure. Autrement dit, l'un ne peut jamais fonctionner tout seul, il ne fonctionne que s'il s'y met à trois, trois, un, deux. Et le sujet, même s'il doit son existence à cette triangulation, qui est en fait quaternaire, mais on peut se contenter là du 3, le sujet doit son existence à cette triangulation, ne veut pas croire à l'incurable perte, puisqu'il se constitue justement de se supposer un. Il va donc le sujet penser tout contre les points où l'événement s'est manifesté à lui. Alors je passe quelque chose que je pourrais longuement développer, et ce sont justement les développements que fait Freud dans le roman familial du névrosé, sur le fait que Freud nous y montre que penser, l'activité fantasmatique, c'est d'abord penser contre. Penser contre une signification d'injustice qu'éprouve le sujet, qui ne retrouve pas dans ce qui lui arrive sa dimension d'exception. Je passe là-dessus et je pose une première question à partir de ce que nous avons évoqué jusqu'à présent, comme il faut bien le dire, deux écritures totalement distinctes. L'une d'elles, de ces écritures, ce sont ces traces qui font l'inconscient, inconscient réellement singulier à chacun. Et l'autre type d'écriture est celle dont nous sommes partis dans cet exposé, l'écriture des discours, les formules des discours. Elles semblent s'opposer, puisque les premières, les traces qui constituent l'inconscient, sont strictement contingentes, propres à chacun, ne relèvent en aucun cas d'une déduction vraisemblable, voire d'une déduction compréhensible. Seconde écriture, celle des discours, ce sont des formules au même titre que celle de Descartes, avec ses petites lettres, ou de Newton. Ces formules déterminent un réel, et par là, elles ont des conséquences collectives logiques que nous pouvons interpréter, avec tout ce que cela suppose de perturbation et d'inconnu. Cela dit, notre pratique est celle du discours analytique. Un discours, on l'a vu, qui ne nous permet pas d'organiser un quelconque collectif. Notre objet, c'est l'inconscient, soit ces traces dont on peut démontrer qu'elles sont au départ de toutes les histoires qu'un sujet se raconte pour s'en supporter. Je dirais, prendre le titre de l'année, le sujet, à partir de ces traces, s'historise. Il les reconnaît comme telles et il en interroge le sens à partir du rapport sexuel qu'il leur suppose. Et il se raconte le sens qu'il donne à ces traces sur la scène de son fantasme avec ses partenaires. Alors, une question aussi, encore, c'est celle de l'existant, du rapport ou non, entre cette dimension d'événement qui fait trace, qui fait écriture, d'un côté, et de l'autre côté, la nécessité, voire la passion qu'ont certains sujets, plus que d'autres, à écrire, à scribouiller. Certains jusqu'à la pathologie. Quoi qu'il en soit, qu'il scribouille beaucoup ou peu, le sujet n'en sera pas moins dans sa vie porteur des effets de répétition de ces traces. Et même, il les transmettra à son insu, à ses descendants. À propos de cette transmission générationnelle, un cas clinique. Je l'emprunte à Lacan, dans la psychanalyse et son enseignement, une conférence en fait du 23 février 1957, il y a 59 ans seulement. Le passage figure à la page 448 des écrits. Lacan part d'une référence à la Bible, à propos de cette histoire de transmission générationnelle, en l'occurrence le proverbe sur les raisins verts qu'ont mangé les pères et qui agacent les dents des enfants. Jérémie 31-29. Et Lacan s'amuse que cette référence Jérémie 31-29 puisse très bien être entendue, au moins à l'époque où il parlait, comme un numéro de téléphone. Vous vous souvenez, ceux qui... Voilà, les numéros de téléphone de l'époque. Il commente. Bon ou mauvais, ce joke, vous penserez que ce n'est pas par hasard que je le risque si éperdument lié à la lettre. Car c'est par la marque d'arbitraire propre à celle-ci que s'explique l'extraordinaire contingence des accidents qui donnent à l'inconscient sa véritable figure. Extraordinairement moderne comme passage. Il illustre cela. Il illustre cela cliniquement à partir d'une forme précise d'injure, une gifle. Une gifle qui, je le cite, se reproduit à travers plusieurs générations. Violence passionnelle d'abord, puis de plus en plus énigmatique en se répétant dans des scénarios compulsifs, jusqu'à n'être plus que l'impulsion ponctuant de sa syncope, une méfiance du sexe quasi-paranoïaque. Alors cette gifle, ajoute Lacan, nous en dira plus long de s'insérer comme signifiant pour former les figures du tarot d'où sera sorti réellement, quoique à son insu pour le sujet, les choix décisifs pour sa destinée, d'objets dès lors chargés pour lui des plus déroutantes valences. Parle là des choix des partenaires. Il y a en effet à cette inconscient trace, écriture, une dimension implacable, intraitable, sur laquelle Lacan insiste aussi dans son séminaire des noms du père. Nom du père, leçon 3 du 11 décembre 73. C'est un peu plus récent. Je cite, ce que répond le discours analytique, c'est ceci. Ce que vous faites, bien loin d'être le fait de l'ignorance, est toujours déterminé par quelque chose qui est savoir et que nous appelons l'inconscient. Ce que vous faites, c'est SAIT. Ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. C'est vous. Je passe le passage où il dit que, où il incite sur la nouveauté de cette conception par rapport à tous les guignols qui ont pensé, et à son regret, dit-il, il est obligé de mettre jusqu'à Pascal dans la liste des guignols. Et il continue, la réponse de l'inconscient implique le sans pardon, et même sans circonstances atténuantes. Ni religion, ni psychologie, ni sociologie. Ce que vous faites est savoir, parfaitement déterminé. En quoi, je cite là encore et toujours, en quoi, et toujours pour les histoires de génération, en quoi le fait que ce soit déterminé d'une articulation supportée par la génération d'avant ne vous excuse en rien, puisque ce n'est le dire de ce savoir que le faire savoir plus endurci, si je puis dire. C'est tiré de séminaire de Lally, c'est son style parlé, mais moi j'aime bien. Donc, génération d'avant encore. Je passe sur les commentaires du lui faire savoir plus endurci, qui peut nous évoquer aussi bien une dimension phallique du savoir que le mur sans résonance de la forclusion. Attachons-nous plutôt à la question que nous a posée ici Jean-Jacques Gorok. Savoir comment le fait de revisiter le récit modifie la position subjective. Jean-Jacques ici nous disait, quand on lit Lacan, on s'aperçoit que le franchissement est toujours défaillant, inaccompli, labile, etc. D'où la très grande prudence affichée sur le devenir de l'histoire qu'on se raconte. Lacan donne un élément, un début de réponse immédiatement à la suite de ses propos sur la gifle que je viens de vous lire. Je le cite encore, à propos donc de ces déroutantes valences. J'ajoute que c'est seulement ainsi que ces affinités, sources de désordres immaîtrisables tant qu'elles restent latentes, pourront être reconnues, etc. Donc Lacan laisse supposer que ces désordres non pas disparaissent, mais peuvent être maîtrisables si les sources de ces affinités étranges cessent d'être latentes et sont reconnues. Passe de désordres immaîtrisables à désordres éventuellement méprisables. Nous pouvons être méprisables, effectivement, plus beaucoup de prix. Alors du coup, je propose que nous fassions un bond à l'extrême fin de l'enseignement de Lacan à partir de ce passage, quand il parle d'un autre désordre, l'espe d'un laps, celui qui n'a plus aucune portée de sens dans l'inconscient. En particulier, il n'a plus le sens de l'un du rapport sexuel, même si ce rapport est un effet de sens. Alors, en quoi la reconnaissance du désordre, du non-sens que porte l'inconscient, modifierait-il sa portée subjective? Peut-on, par exemple, échapper à la malédiction de la répétition, que ce soit dans sa vie ou à travers les générations? Ou, plus modestement peut-être, est-il possible de se faire, citation ou expression de Lacan, de se faire au signifiant de sa traverse sans demander un pardon ou des circonstances atténuantes, autrement dit, sans en remettre le sort du désordre, sans en remettre le sort à un autre qui n'existe pas, sinon de façon contingente? Lacan, il me semble, propose non de modifier l'existence de ces signifiants, mais leurs effets, en cessant d'attendre d'eux ce qu'ils ne peuvent pas donner. Ce n'est en effet que par mensonge, même s'il est partagé, que le sujet peut leur donner cette portée d'emblème dont nous avons parlé, un emblème qui écrirait l'un du rapport sexuel. Il s'agirait ainsi, par une analyse, de produire ces signifiants, si nous pouvons dire déshabillés de leur mise en scène fantasmatique. Nous le savons, d'un côté, n'importe quel signifiant peut faire fonction d'emblème de l'un. Et d'un autre côté, un emblème peut redevenir un signifiant tout à fait quelconque, pour peu qu'il soit remplacé par un autre emblème. Peut-on pour autant, par une analyse, destituer ces signifiants de leur statut d'exception et les ranger au rayon des accessoires communs au même titre que n'importe quel autre signifiant? Cesse-t-il de supporter le dire d'un sujet de se faire cause des événements de sa vie? En effet, la question n'est pas de savoir si on peut trouver les bons emblèmes qui n'existent jamais, mais si on peut se passer d'emblèmes, si on peut enlever aux signifiants leur portée de sens, leur portée de roman du rapport sexuel. C'est là, me semble-t-il, le pari qu'a voulu faire Lacan. La réduction de l'emblème à la logique de son fonctionnement, avec la désubjectivation qui l'accompagne. C'est ce qu'il a fait, me semble-t-il toujours, en passant de la lecture de la gifle comme lettre à l'écriture de petit a, puis à l'écriture des discours et enfin à celle d'une boromée. On passe ainsi de la trace d'un événement qui est une écriture sans sujet, dont le sujet est un effet, trace d'un événement donc qui est une écriture sans sujet, à la lecture, à l'interprétation de la lecture qu'en fait le sujet, qui de cette trace s'assure comme signe de son exception. Et enfin, on passe de cette lecture qu'en fait le sujet, à l'écriture d'un savoir logique. L'écriture donc d'un savoir logique lui-même désubjectivé et supposé transmissible sur ce que c'est qu'un événement. Pour le dire autrement, l'écriture des discours donne la raison de la lecture du symptôme comme écriture de l'un. Pour conclure, Lacan a pu dire qu'il avait donné sépulture décente à Freud. Pouvons-nous dire qu'une psychanalyse peut donner sépulture décente aux parents ou aux parents traumatiques? Si c'est vrai, ça n'est en tout cas pas sans conséquence d'apaisement. Mais nous pouvons aussi nous souvenir que la destitution du sujet entraîne avec elle une dévaluation de la jouissance. Et que du coup, comme le précise Lacan toujours dans Les Non-Dupes, la jouissance en prend un coup aussi. Cela dit, cet apaisement n'empêche pas la place du désir et sa dimension contingente reste préservée, puisque cette opération de dévaluation, pour logique qu'elle soit, ne va pas sans un dire préalable, celui de Freud et de Lacan. Voilà, je vous remercie.